Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1, 18h34 en ce dimanche 11 avril, en débat pendant une demi-heure avec nous ce soir Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur à Sciences Po et spécialiste de communication politique. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
On élargit
Bonsoir,
la
Wendy.
Vaccination, annonce Olivier Véran, en autorisant dès demain l'injection d'AstraZeneca de Johnson & Johnson pour les plus de 55 ans. En même temps, toujours pas de calendrier précis pour les enseignants, contrairement aux promesses du gouvernement. Les militants de la fin de vie attendaient la parole présidentielle sur la proposition de loi balayée cette semaine à l'Assemblée. Cette parole n'est pas venue. On va y venir. Et puisque vous avez vu, lu et entendu tous les trois au cœur de l'actualité.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
On élargit donc la vaccination, nouvelle étape, nouveau public, éligible dès demain, les plus de 55 ans. Et cette petite pépite que vous nous avez trouvée, Philippe Moreau-Chevrolet, on va écouter cette chanson. Pour moi, elle est Pfizer, sur la musique de Pierre Bachelet, pour introduire notre réflexion.
Elle a au fond des yeux cette lueur qui lui donne un air supérieur, cette rougeur en haut du bras, en souvenir d'un sparadrap. Elle a un truc, y a pas d'erreur. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer.
Voilà, alors bravo, je ne sais pas, vous avez déniché ça, Philippe Moreau-Chevrolet. Vous pouvez nous en dire plus, parce qu'en plus, il a une très belle voix.
Alors c'est un groupe qui s'appelle, un trio qui s'appelle Les Goguettes, qui font des vidéos comme ça décalées régulièrement sur YouTube, qui a un public, hein, et c'est effectivement une très jolie voix. Ils font régulièrement des satires de ce genre, et là il faut avouer que c'est quand même très... La musique est bien choisie, parce que ça évoque un petit peu la reprise. Enfin, il observe sa voisine qui a été vaccinée Pfizer, lui il a eu que l'AstraZeneca, il a du mal à avoir sa deuxième dose, et il observe qu'elle a repris une vie normale, alors ça le frustre vraiment. Et ça illustre bien la situation actuelle où, au fond, la première demande des Français maintenant, c'est le vaccin, le vaccin, le vaccin. Et voilà, donc c'est un clin d'œil. On me l'a envoyé au moins 10 fois, cette chanson. Elle circule beaucoup sur WhatsApp.
C'est à point nommé Laetitia Krupa.
Alors, j'ai juste une petite suggestion à faire à ce groupe, hein, que je ne connaissais pas. Peut-être qu'il faudrait faire une petite chanson sur AstraZeneca. Non, vous ne pensez pas, Wendy? Parce qu'il me semble que l'hésitation, elle est plutôt sur ce vaccin-là. Là, il y a un énorme abcès de crispation. Donc, il faudrait qu'effectivement, on arrive à briser cette défiance, hein, qui s'est installée de façon durable.
Terrible. Hein, oui, le nombre de doses d'AstraZeneca qui restent aujourd'hui dans les centres de vaccination.
Je pense que ce que dit Laetitia Krupa sur cette défiance est tout à fait possible. Mais dans les enquêtes en fait, d'opinion, il n'y a pas eu d'effet négatif AstraZeneca avec cette suspension, puis ce retour sur le marché, puis là les quelques cas qui ont été cités, sur l'adhésion des Français au vaccin, sur l'intention de plus en plus forte de se faire vacciner. Et il y a des fortes progressions dans les segments critiques, catégories populaires, jeunes de moins de 35 ans, parce que plus que jamais, on a compris que c'était le meilleur moyen de retrouver le cours de nos vies normales. Et comment dire, de même, il n'y a pas eu d'effet sur ce qui s'est passé au Chili, en Colombie britannique, où il y a des nouveaux variants. On est vraiment sur de plus en plus une adhésion à la vaccination et donc une pression de plus en plus forte sur le gouvernement, sur Emmanuel Macron, alors que le premier pari, les 10 millions, a été réussi.
Attends.
Ça n'empêche pas le scepticisme.
10 millions et demi, mais c'est vrai qu'on s'identifie maintenant. Alors moi je suis Pfizer, moi je suis AstraZeneca, moi je ferai peut-être Moderna, et peut-être demain Johnson & Johnson. Hein, ça arrive.
On va voir dès demain, puisque les plus de 55 ans, sans critères, peuvent se faire vacciner AstraZeneca, Johnson & Johnson. Mmh. Donc là, on verra. Frédéric, je ne remets pas en question vos enquêtes, mais il y a aussi le terrain qui compte. Hein, et on verra bien si il y a un frein ou pas à l'adhésion du grand public, des plus de 55 ans, à ces vaccins. Quand on parle avec les médecins, ils nous disent quand même que régulièrement, leurs patients leur disent « Moi, je ne veux pas d'AstraZeneca, je veux pouvoir choisir mon vaccin. » Or, on ne choisit pas son vaccin.
Oui, avec ce calendrier qui accélère, peut-être 10,5 millions de Français qui ont reçu, vous le disiez Frédéric, une première injection de vaccin et des incompréhensions qui subsistent encore sur les personnels enseignants qui seraient prioritaires plus qu'ils ne le sont plus, incompréhension sur l'école. Ça fait des semaines que l'exécutif semble tourner autour du pot sur ce sujet. De qui se moque-t-on, réagissait hier dans ce 18-20 le président du SNALC, Jean-Rémy Girard, lui-même enseignant. Écoutez.
C'est quelque chose qui avait été annoncé par le ministère de l'Éducation nationale et à partir de là, ça a été le grand n'importe quoi. On nous a dit un jour oui, on nous a dit un jour non, on nous a dit un jour peut-être, on nous a dit mars, on nous a dit juin, on nous a dit avril, on nous a... Voilà. Et là, on se rend compte que même Emmanuel Macron, quand il dit les enseignants, c'est à partir de mi-avril ou fin avril, en fait, il faut comprendre une minuscule proportion d'enseignants, c'est peut-être à partir de mi-avril ou fin avril, mais en fait, les enseignants, c'est avec le reste de la population, aux dates de calendrier, tout à fait, enfin, il n'y a pas de date différente. Mais... pour nous, c'est un mensonge d'État.
Alors, que dire sur cette absence de clarté et sur ces, ces calendriers vaccinaux?
Emmanuel Macron l'avait promis pour fin avril, et puis là, on n'a plus aucune nouvelle. Quand on lit l'interview d'Olivier Véran dans le JDD aujourd'hui, il ne parle pas des enseignants. Donc, est-ce qu'ils vont être prioritaires ou pas? Parce que c'est ça la question, Wendy. Est-ce que, oui ou non, les enseignants vont être prioritaires dans la vaccination? Pour le moment, je comprends, moi, que non.
Enfin, Philippe Moreau-Chevrolet, pourquoi ce n'est pas dit clairement alors que c'est presque revendiqué par l'ensemble de la population?
Alors, c'est pas dit. Déjà, la population en elle-même, elle a beaucoup évolué en faveur de la vaccination. Donc, aujourd'hui, les freins qu'on a identifiés avant ont quasiment disparu. Hein. Il y a plus des deux tiers de la population maintenant qui est prêt à se faire vacciner. Les enseignants, c'est une vieille revendication. Parce que depuis le début, ils se retrouvent à enseigner devant des classes de 20, 30, 40 élèves qui ne portent pas toujours le masque quand ils sont en âge de le porter. En maternelle, ils n'en portent pas et ils n'ont pas de protection. On ne leur a pas acheté des FFP2, ils doivent les acheter eux-mêmes. Les masques qu'on leur a fournis, il y avait une polémique sur le fait qu'ils étaient peut-être toxiques. Enfin bref,
il y a les autotests
le début,
qui arrivent dans les écoles.
Mal parti.
Oui.
Ah oui, non, mais ça, heureusement, et vraiment, c'est les autotests, les tests salivaires, tout ça, c'est génial si ça se met
mais
en place.
Est-ce qu'ils vont être prioritaires ou pas? C'est ça la question.
Est-ce qu'ils vont être prioritaires ou pas?
Non, la question, non, mais c'est une excellente question, mais le problème, c'est qu'on leur a dit qu'ils seraient prioritaires.
Mais on leur a dit. Et en fait, ils ne le sont pas.
Blanquer l'a dit, Véran l'a dit, on l'a dit publiquement, et après, on vient de dire de rétro-pédaler.
Oui.
Et c'est le chef de l'État qui a rétro-pédalé lui-même en disant que non. Donc, ils sont furieux, les enseignants. Mais honnêtement, on les comprend.
Mais je suis d'accord avec Philippe. On les comprend parfaitement quand on fera l'histoire de la gestion de cette pandémie qui s'écrit au jour le jour. Peut-être que cette question de la vaccination des enseignants sera centrale dans les dysfonctionnements. Oui. Je rappelle, et je l'avais fait il y a quelques semaines, que Jean-Michel Blanquer en parle dès le mois de janvier. Mm-hmm. Il parle d'une vaccination en février. Au mois de février, il parle de mi-mars. Mars. Tous ces messages contradictoires ont brouillé la communication, ont installé un sentiment de tromperie. Et Jean-Michel Blanquer l'a payé cash dans les enquêtes de popularité IFOP Fiduciel pour match, ou en 2-3 mois, il faut toujours voir ses enquêtes sur la longue durée. Il a perdu une dizaine de points et je vous le donne dans 1000. Dans quelle catégorie il a le plus reculé? Dans celle des parents d'élèves. Mmh. 25-34 ans, 35-49 ans, avec une inquiétude des parents qu'on a vue et malgré les difficultés organisationnelles, une adhésion forte des parents d'élèves à la fermeture des écoles.
Oui, mais ce n'est pas possible d'avoir une communication comme ça, pardon, Laetitia Krupa.
Ah bah
une communication aussi aléatoire, confuse, y compris de Jean Castex hier, qui a dit probablement la semaine prochaine, les enseignants qui travaillent au contact des enfants handicapés. Oui. Sur une poignée.
Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi, quels sont les freins, encore une fois, à cette politique.
Bah, le manque de doses, peut-être.
Bah non, puisque ça, c'est vraiment un partage qu'il faut faire, puisque là, au plus de 55 ans, on peut proposer à partir de demain une vaccination sans aucun critère. Donc, on ne comprend pas, encore une fois, c'est toujours ce problème de compréhension, c'est de la pédagogie qu'il nous faut. Peut-être qu'ils ont un problème. Peut-être, vous avez raison, après tout, oui, c'est un nombre de doses, mais pourquoi ne pas le dire? Là, l'opinion publique est atterrée, puisque, effectivement, ça fait 3 mois qu'on nous promet, pour les enseignants, une vaccination. Donc, pourquoi c'est pas possible à partir
c'est
de demain.
Et qu'on voulait profiter de ces 2 semaines de vacances alignées sur tout le territoire, Philippe Moreau-Chevrolet, pour le faire et pour protéger nos enseignants, pour que la reprise le 26 avril se fasse avec davantage de tranquillité d'esprit, on va dire.
C'est ça, et puis il ne faut pas oublier que tous les pays européens, quasiment tous les pays au monde, priorisent les enseignants parce que ça évite de les contaminer eux, ça évite évidemment de recontaminer les élèves, enfin, c'est très vertueux. Et c'est vrai que ces 2-3 semaines, on pensait que l'exécutif allait pouvoir organiser un protocole sanitaire, et en fait ils l'ont allégé, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé des mesures qu'en gros on avait besoin d'un seul cas pour fermer une classe. Ils sont revenus à la situation antérieure où il fallait 3 cas, alors qu'on a des variants qui sont plus virulents, donc ça n'a aucun sens. Et on ne protège pas les écoles, il n'y a pas de filtre HEPA comme c'est mis en place à l'étranger, il n'y a pas de capteur de CO2, qui sont des dispositifs extrêmement peu coûteux et qui permettraient peut-être de garder les classes ouvertes.
Oui, bah on a les mêmes débats. Hein. Vous allez dire qu'on radote,
mais
on a les mêmes débats depuis un an.
Vous savez, je pense que l'opinion publique ne supporte pas qu'il n'y ait pas de décision, qu'il n'y ait pas d'annonce. C'est vrai que des excuses, une explication sur ces ratés, ce serait accepté. L'opinion publique française est bienveillante, elle est dans une logique d'exonération, elle sait que cette crise est extrêmement compliquée, que les bons élèves européens d'hier sont les pays qui galèrent, pardon de ce terme, aujourd'hui, mais le silence, le brouillage, les décisions contradictoires, c'est dévastateur. Et je l'avais dit aussi il y a quelques semaines, pardon de radoter, pour la première fois depuis quelques semaines, la grille, le registre de l'incompétence sur Emmanuel Macron est apparu, ce n'était jamais apparu avant depuis le début du quinquennat.
Ça génère une certaine passivité aussi des certains personnels, parce que dans des écoles, ouvrir une fenêtre, je pense qu'on n'a pas besoin d'un protocole sanitaire qui nous dit d'ouvrir les fenêtres dans les classes. Hein. Et ben dans certaines écoles, je peux vous l'assurer, elles ne sont pas ouvertes. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin qu'un ministre, Jean-Michel Blanquer, nous dise d'ouvrir les fenêtres quand il y a 30 élèves dans une même classe.
Il y a un autre sujet lié, chère Grandevoix, à celui-ci, c'est la tenue des élections départementales et régionales. A priori, les 13 et 20 juin, ça sera tranché cette semaine. Est-ce que le scrutin aura bien lieu ? Et vous vouliez revenir de manière un petit peu détournée sur ce sujet, Laetitia Crepa, ce soir.
Oui, je voulais revenir parce que j'ai entendu Michel Fournier, le président de l'Association des maires ruraux de France et des petites communes de moins de 3500 habitants, affirmer aujourd'hui qu'elle n'était pas capable d'organiser les élections régionales en juin parce que le personnel dans les conseils exigés par le conseil scientifique ne pouvait pas être respecté. C'était quoi ? C'est soit être vacciné, pour ceux qui vont effectivement organiser ces élections,
être soit assesseur, tenir le bureau, oui.
Voilà, soit avoir un test PCR négatif. Et alors là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, ne pas être vacciné, on comprend, on sait qu'il y a des lenteurs. Mais ne pas pouvoir avoir accès à un test PCR et montrer que c'est négatif, là, il y a un énorme problème.
Bah, c'est très lourd. C'est-à-dire que vous êtes assesseur. Alors déjà, vous prenez de votre temps, ensuite vous faites un test.
C'est gratuit, on le sait.
C'est pas évident.
C'est qu'il y a un problème donc, pour une grande partie de la population, parce qu'il y a une grande partie de la population qui habite dans les zones rurales.
Oui.
Bon, ça, c'est un. Mais quand on creuse un peu et qu'on l'écoute, Michel Fournier, on comprend qu'il y a un autre problème. Il dit qu'il connaît lui-même beaucoup de gens qui sont décédés pendant les élections municipales de 2020. Il y a un traumatisme qui est encore vif. Et surtout, il dit qu'il n'a pas envie d'avoir la responsabilité de mettre en danger ses collaborateurs ou toute personne qui pourrait venir pour cette élection. Et je vous rappelle qu'il y a eu énormément de plaintes qui ont été déposées suite aux élections municipales, notamment la Cour de justice de la République a ouvert justement des enquêtes sur le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, Agnès Buzyn ou encore Olivier Véran. Donc il y a un phénomène, si vous voulez, de freinage, alors que normalement, le recours à la justice devrait pouvoir rassurer les citoyens, se dire que ça, c'est une sorte de garantie de la bonne, de bon fonctionnement de l'action publique. Et là, on voit les politiques, on voit les élus locaux, on voit n'importe qui doit être dans l'action publique complètement figé de peur d'être poursuivi. C'est un énorme problème, Wendy.
C'est vrai,
mais
Frédéric David.
Je trouve très intéressant ce que vient de dire Laetitia Crepa, parce que c'est la prolongation de notre débat précédent. Que se passe-t-il ? C'est le refus du politique de prendre ses responsabilités. Il a d'abord refilé la patate chaude au Conseil sanitaire qui n'a pas pris de décision. Il allait à une consultation qui a été lancée extrêmement vite. On sait que traditionnellement, je suis un homme de sondage, une consultation, on prévient en amont, on dit aux principaux intéressés, ce sont les maires, vous allez être consultés pour savoir ce qui se passera pour les élections. Il suffit de dire, on vote au mois de juin car la démocratie ne doit pas être confinée, versus il se peut qu'il y ait encore des difficultés, nous voterons fin septembre. Et ce n'est pas une élection, c'est deux élections. Les régionales, les départementales. Sincèrement, c'est lourd à organiser. Les Français, c'est exactement la même chose. Je pense qu'ils ils adhéreraient aux deux scénarios possibles, mais faute de décision, nous attendons. Nous avons une campagne qui n'a pas commencé. Hein. 14% seulement des Français qui s'y intéressent. C'est le chiffre le plus bas que je n'ai jamais vu. Oui. Et c'est une campagne en apesanteur.
On le saura en début de semaine prochaine. Ouais, Jean Castex doit trancher.
Philippe Moreau-Chevrolet, la seule campagne qui vaille, dit Christian Estrosi, aujourd'hui maire de Nice dans le JDD, c'est la vaccination. C'est probablement aussi un leitmotiv de certains politiques dans ce débat.
Oui, puis c'est toujours une façon de présenter les choses. On fait comme si, au fond, le choix était réduit à un truc binaire. Soit on vote, soit on se vaccine. Alors non, hein, on va se vacciner de toute façon. La question de savoir si on doit voter, elle est cruciale parce que ça peut aussi, dans cette logique-là, on peut aussi se dire qu'on pourrait repousser la présidentielle. Enfin, on peut tout repousser. La question, c'est comment on s'organise alors qu'il y a un virus pour pouvoir voter, maintenir les scrutins. Peut-être qu'il faut passer au vote par correspondance, qui est massivement adopté aux États-Unis. Le dernier scrutin s'est plutôt bien passé. Il y a eu 50 recours qui ont tous échoué en justice. Le système fonctionne. On n'est pas plus bête que les Américains, n'est plus incapable au niveau logistique. En tout cas, j'espère que non. Et donc, il faut qu'on puisse trouver des solutions pour que les gens votent. On arrive à payer ses impôts par Internet, qu'on ne me dise pas que c'est moins sécurisable ou moins asécurisé que le fait de voter.
Voilà, mais est-ce encore un manque d'anticipation ? En tout cas, trois petits points. Merci d'avoir ouvert ce débat en attendant la décision. Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi. On va se retrouver dans une petite minute pour le débat des grandes voix et revenir sur la proposition de loi sur la fin de vie balayée cette semaine à l'Assemblée nationale.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1 en débat ce dimanche soir jusqu'à 19h. Laetitia Krupa est avec nous, journaliste politique. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Et Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil et spécialiste de communication politique. La fin de vie était en débat jeudi à l'Assemblée nationale après le vote de cette proposition de loi en commission des affaires sociales autour de la liberté de choisir dans des circonstances très encadrées, on en avait parlé le week-end passé, la manière dont on veut mourir. Oui, mais meurt-on vraiment mal en France ? Les patients demandent-ils à mourir ? J'aimerais que vous écoutiez pour réagir l'argumentaire d'une membre de la majorité. Aurore Berger, elle est députée des Yvelines et elle n'a pas voulu voter la loi jeudi à l'Assemblée nationale.
Reconnaissez aussi, monsieur le rapporteur, que si votre proposition de loi, elle est largement partagée sur ces bancs, les doutes sont aussi largement partagés sur ces bancs. Ils sont aussi largement partagés à l'extérieur de notre hémicycle. Quand des voix aussi singulières et aussi différentes de Robert Badinter à Michel Houellebecq s'expriment, j'ai envie de tendre l'oreille et de comprendre, pourquoi il n'y a pas unanimité aujourd'hui sur ce sujet essentiel.
Alors, j'ai choisi cet extrait de Aurore Berger parce qu'il dit beaucoup de choses. L'idée de rouverture d'un vrai débat, que la majorité, vous l'avez évoqué la semaine passée, Laetitia Krupa, est divisée aussi. Sur ce sujet-là, votre réaction face à ce que pensent les Français et ce que souhaitent les Français sur l'évolution de la loi ?
En tout cas, les Français sont en contradiction totale avec ce que dit Aurore Berger. D'ailleurs, premièrement, le doute est partout. Hein. Il n'est pas concentré sur ce sujet de la fin de vie. On a encore réalisé une enquête pour la DMD il y a quelques jours qui montre, et ce sont les mêmes résultats qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, une opinion publique d'un bloc. 93% des Français favorables à, dans certains cas bien sûr, bien encadrés, favoriser une euthanasie. 89% des suicides médicalement assistés. 69% favorables à une évolution de la loi Claeys-Leonetti. Ce qui frappe, Wendy, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion sur des sujets de société, mariage pour tous, peine de mort, avortement, il y avait des clivages générationnels, des clivages sociaux, des clivages politiques. Je ne vois pas un seul clivage. L'opinion est d'un bloc. Bien sûr, il y a des sensibilités, mais elle veut que la loi évolue. Et ce qui est terrible, c'est que quand j'entends les arguments d'Aurore Berger et d'autres, ça me rappelle ce qu'on entendait avant 1981. Alors, j'étais petit, mais je les ai lus quand même. C'est que sur l'abolition de la peine de mort, la société n'est pas prête. Ce n'est pas le moment. En ce moment, il y a le Covid. Il faut seulement être sur le Covid. C'est ce que disait Philippe sur vaccination versus élection. Oui. Il faut un vrai débat, comme s'il n'y a pas eu des dizaines de débats. À chaque fait divers, à chaque drame, ces sujets, mais je dirais, inquiètent les Français, parce qu'on se projette très très facilement sur sa fin de vie ou sur celle de ses parents.
Il n'y a pas eu un vrai débat national sur
non,
le sujet.
Non,
hein, c'est peut-être ce qui manque aussi. Il faut peut-être avoir le courage.
Il y a eu
des
conférences citoyennes, il n'y a pas eu de vrai débat à l'Assemblée qui durerait plusieurs semaines. Et à mon avis, ça passionnerait.
Ça passionnerait, oui. Alors, et justement, Jean-Luc Romero, sur cette antenne la semaine dernière, demandait aussi à Emmanuel Macron d'avoir le courage d'amorcer ce débat, justement, Laetitia Krupa. Il serait nécessaire ?
Mais évidemment, l'argumentaire d'Aurore Berger est navrant. Enfin, je veux dire, c'est niveau zéro. Parce que Michel Houellebecq ou Robert Badinter, c'est ça
Alors, il s'interroge sur...
Il faudrait... Non mais n'importe quoi.
Sur l'intérêt d'une loi, d'une autre loi.
Qui est en train de souffrir et qui, à longueur d'antenne, demande à ce qu'elle puisse partir comme elle le souhaite. Enfin, il y a d'autres personnalités. Enfin, là, c'est vraiment niveau zéro. Évidemment qu'il faut un débat, Wendy. Quelle politique a le pouvoir de dire « ce n'est pas le moment, on ferme le banc, on ferme la discussion, Olivier Véran a balayé d'un revers de main ». Mais enfin, bien sûr que oui, c'est le moment. 96% dans les sondages, 95%.
Aucun courage politique sur ce sujet, et de quelque bord que ce soit.
Et vous avez bien vu que le dernier amendement qui a été mis au vote a été voté largement. Il rassemblait à peu près tous les éléments du projet de loi. Donc on sait que cette loi pourrait passer.
Absolument.
Donc le gouvernement prend la responsabilité de ne pas faire passer, ce n'est pas, même pas d'ouvrir le débat, c'est de ne pas faire passer cette loi sur l'euthanasie, sur le droit de mourir dignement avec son choix personnel.
Philippe Moreau-Chevrolet, qu'ajouter à cette réflexion, à cet échange sur ce sujet essentiel?
On pourrait ajouter que c'était le même problème sous François Hollande, donc il y a une forme de continuité. François Hollande, en son temps, avait promis qu'il s'occuperait de la fin de vie, c'était même une de ses promesses de campagne, et lui aussi a reculé devant l'obstacle, alors qu'en fait il n'y a pas d'obstacle, puisque l'opinion est pour. Je crois qu'il y a une volonté chez Emmanuel Macron, comme chez François Hollande, de ne pas, de fuir en fait les réformes qui pourraient être trop labellisantes, trop marquantes, trop clivantes.
C'est le neutre
pour pouvoir
dont on parlait hier.
Neutre neutralisation, j'ai retenu au moins.
La réalité, c'est que d'ici à la fin du mandat, on peut s'attendre à ce qu'aucune mesure ne soit prise, sauf des mesures effectivement obligatoires ou un peu désespérées qu'il faudra prendre. Mais ça va être un jeu de reculer le plus possible avant 2022. Mmh. C'est navrant, mais c'est comme ça que fonctionne aussi notre démocratie. Il y a une certaine continuité avec François Hollande. Moi, c'est ça qui me frappe. Je ne comprends pas pourquoi ni Hollande, qui lui était plutôt clairement de gauche et ne jouait pas la droite à ma connaissance, et ni Macron, qui lui veut jouer la droite, ça pourrait déjà être un peu plus compréhensible, mais pourquoi ni l'un ni l'autre n'ont passé la loi sur la fin de vie?
Oui.
Surtout quand Olivier Véran dit ce n'est pas le moment d'ouvrir le débat épineux, mais au contraire, on est au contraire en pleine crise sanitaire,
très
précisément. Pose la question de la toute-puissance des médecins. À un moment donné, il va falloir discuter de cette omnipotence du pouvoir médical.
Et ils ont peur. Ils ont peur. Question éthique, métaphysique, religieuse, tout ça se mêle.
Alors, il y a une question du sondage IFOP ADMD que je trouve intéressante. Elle est bien sûr assez artefactuelle, elle est assez artificielle. Mais est-ce que vous seriez prêt à ne pas voter à la présidentielle pour un candidat proche de vos idées, mais qui refuserait de se prononcer sur la question de la fin de vie? 50% des Français le feraient. Bien sûr, c'est un chiffre à prendre avec prudence, mais ça en dit long sur l'envie des Français de débattre et de voir ce sujet qui concerne absolument tout le monde, quel que soit votre âge, votre génération, votre sexe, sur le débat public et au cœur d'un vrai débat national.
Eh bien, merci de vous être exprimés tous les trois sur ce sujet. Wendy Bouchard, 18h57, on a encore trois petites minutes et j'aimerais que dans la perspective de l'élection présidentielle, on aura évidemment l'occasion d'y revenir, mais que nous nous arrêtions quelques instants sur les différents scénarios qui ont été échafaudés, notamment par l'IFOP, avec pour 2022 le duel Macron-Le Pen qui reste en haut de l'affiche, mais à droite, Philippe Moreau-Chevrolet, excellent sondage pour Xavier Bertrand, notamment. Vous êtes toujours là, Philippe? Laetitia est avec nous.
Non, c'est un très bon sondage pour Xavier Bertrand qui confirme sa percée. 16%, il progresse par rapport à il y a quelques semaines. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est un sondage qui peut-être va tuer la primaire attendue à droite, puisqu'il relègue Valérie Pécresse à plus de 5 points. Laurent Wauquiez est à un score extrêmement bas à 7 points. Clairement, il apparaît de plus en plus, Xavier Bertrand, comme le candidat naturel, surtout que c'est une élection peut-être où les seconds tours, moi je suis très prudent sur les seconds tours, vont être plus auscultés, on dit, que le premier tour, puisqu'il atteindrait 59%. Aujourd'hui, c'est le meilleur antidote anti-Le Pen quand Emmanuel Macron bat Marine Le Pen, mais c'est beaucoup plus serré à 54%.
Voilà, il faut le prendre au sérieux. Premier tour, parce que c'est quand même
c'est
toute la question. Oui. Parce que bon, se faire comme ça des scénarios fiction de second tour, mais est-ce qu'il passe Xavier Bertrand?
Vous savez, Jacques Chirac en 1994 n'était qu'à 12%. Et on a suffisamment reproché aux sondages et aux médias en 2002 d'avoir enfermé le débat dans Chirac-Jospin. On a eu finalement Chirac-Le Pen pour ne pas, à un an, tester tous les scénarios possibles. Il y en a un qui est terrible pour Jean-Luc Mélenchon, qui serait battu à 60%.
Oui, ce que j'allais vous dire. En tout cas, ce qui ne passe pas du tout, c'est pour la gauche. Ça sera l'occasion d'un grand débat la semaine prochaine. Mais un mot sur la candidature de Fabien Roussel. Du PCF qui brise l'idée d'un candidat unique.
Elle finit de fracturer effectivement ce projet d'un candidat qui incarnerait la gauche et qui pourrait se qualifier pour le second tour. Là, c'est clair. Alors après, quelle est la différence entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel? Ça, Il faudrait qu'ils vont... Oui, mais il faudrait qu'ils l'expliquent au peuple de gauche, à l'extrême gauche de l'exégèse politique, qui vont devoir voter. Ils attendent cette explication-là et en tout cas de savoir qui sont-ils et que portent-ils comme programme.
Laetitia Krupa, journaliste politique. Merci Laetitia. Frédéric Dabi pour l'IFOP, directeur général adjoint. Merci beaucoup Frédéric. Et en télétravail, et parfois il y a des petites choses qui ne se passent pas exactement comme on l'aurait souhaité. Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG, conseil et spécialiste de communication politique. À la semaine prochaine, tous les trois. Merci beaucoup.